Ce que tout le monde sait, donc, c'est que la Pentecôte est la fête du Saint-Esprit, la fête du don de l'Esprit. Après, il y a d'autres choses dans cette histoire, en particulier des questions de langue, de feu, qui sont un peu plus mystérieuses. Encore que l'Esprit, on sait que c'est la fête de l'Esprit, mais personne ne sait très bien ce que c'est que le Saint-Esprit, donc il faudra qu'on en parle. Et puis ces langues de feu, par-delà l'idée qu'on imagine des flammèches qui ressembleraient à des langues, c'est quoi d'ailleurs, à quoi ça ressemble une flamme qui ressemble à une langue, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que dans le texte, en tout cas, le mot langue qui est utilisé là, glossa, désigne normalement l'organe, c'est-à-dire la langue dont je me sers pour parler, et d'une façon plus générale, quasiment tout le temps, ça désigne la langue, c'est-à-dire la langue que je parle, ici le français. Et donc on voit que tout à coup, il y a quelque chose à voir là-dedans avec la parole. Et donc on dit d'habitude que la Pentecôte est une fête de l'esprit. Finalement, je me demande si ce n'est pas avant tout une fête de la parole. Voilà. En effet, c'est vrai qu'on voit dans cette histoire que, avant la Pentecôte, les disciples avaient l'esprit d'ailleurs, puisque Jésus leur avait soufflé dessus en leur disant « je vous donne mon esprit ». Donc ils avaient l'esprit. Ce qui leur manquait, c'était la parole. Avant, ils ne disaient rien. Et dès qu'il y a la Pentecôte, ils se mettent à parler des discours interminables, les uns et les autres. Et c'est à ce moment-là que commence la prédication de l'Église, la prédication de l'Évangile, c'est-à-dire qu'effectivement, je dirais à partir de la Pentecôte, voilà que la parole s'invite dans l'histoire de la première communauté. D'ailleurs, si on y réfléchit, vous savez certainement que la Pentecôte, avant d'être une fête chrétienne, était une fête juive. Et quand dans le texte on nous dit « à la Pentecôte ils étaient réunis », bah c'était évidemment, il n'y avait pas encore eu les flammes de feu, donc ils ne pouvaient pas célébrer la Pentecôte avant la Pentecôte. C'est que la Pentecôte est une fête juive, ça s'appelle Shavuot en hébreu, et c'est la fête du don de la Torah, du don de la parole de Dieu, de la loi sur le mont Sinaï à Moïse. Donc vous voyez que pour les Juifs, la Pentecôte c'est une fête du don de la parole. Et que de la parole, il n'y a pas d'esprit là, tout à coup, c'est bizarre. Dans une fête, il y a de l'esprit et on oublie la parole, et dans la fête juive, en fait, on n'a que la parole, et a priori, où est l'esprit dans la fête de Pentecôte juive? Eh bien, en fait, il est présent quand même. Parce que dans le judaïsme, les deux sont liés, parole et esprit sont absolument liés, c'est-à-dire que quand Dieu donne son esprit, eh bien, la parole surgit. Dieu inspire, ce qui veut dire donner son esprit, le prophète, et le prophète, plein de l'esprit de Dieu, parle. Autrement dit, la parole et l'esprit sont, dans le judaïsme, absolument liés. Et les Juifs pensaient d'ailleurs, à ce moment-là, que Dieu avait donné son esprit au temps de Moïse, donc il a reçu la loi, qu'ensuite Dieu donnait son esprit aux prophètes, que les prophètes ont donné les paroles. Et les Juifs pensaient à ce moment-là que depuis les derniers prophètes, mettons Malachie, le dernier dans nos livres en tout cas, l'Esprit avait cessé de souffler et que donc il n'y avait plus de prophétie. C'est pour ça que les Juifs ont clos le canon, c'est-à-dire qu'ils ont dit ben « maintenant, Dieu a cessé de parler, il a dit tout ce qu'il avait à dire, et maintenant on ferme ça dans un livre scellé, qui est la Torah, l'Ancien Testament pour nous, et en fait Dieu ne parle plus, donc on va se contenter de ce qu'il a dit ». Et puisqu'il n'y a plus l'esprit qui souffle, eh bien, on va obéir aux rites et aux commandements. Et voilà que les chrétiens bouleversent cette chose-là. Et voilà que tout à coup, ils prétendent que l'esprit se remet à souffler et que par conséquent, de nouveau, une parole prophétique est possible. Autrement dit, je dirais la Pentecôte, c'est la réouverture de la Bible. Ce n'est pas pour rien que finalement, dans notre Bible, nous avons rajouté des livres pour dire « mais si, ce n'est pas clos, il y a une suite ». Et de nouveau l'Esprit parle, de nouveau l'Esprit est donné, de nouveau l'Esprit inspire, et de nouveau il y a une parole qui est donnée, une nouvelle parole, une nouvelle Torah, de nouveaux prophètes qui sont donnés. Et quand je vous disais que dans la théologie juive, l'esprit et la parole sont liés, c'est vrai aussi dans la théologie chrétienne, si on y réfléchit. C'est même d'ailleurs le sens de la Trinité. Bon, alors je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur la Trinité aujourd'hui, mais juste une chose. Les chrétiens, depuis le IIIe siècle, disent « Le cœur de notre foi, c'est que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. » Le grand malentendu, c'est que beaucoup de gens aujourd'hui croient que le Fils, c'est Jésus. Or non, la Trinité, ça n'est pas ça. Le Fils de la Trinité, du dogme trinitaire, c'est la parole de Dieu. Le Verbe éternel de Dieu, qui certes s'incarne en Jésus-Christ, mais c'est la parole du prologue de Jean. Au commencement était la parole, Dieu a tout créé par cette parole, et cette parole s'est trouvée présente dans un homme, Jésus-Christ. Et donc, autrement dit, le Fils n'est pas Jésus, c'est la parole éternelle de Dieu qui s'incarne dans une personne humaine qui est Jésus-Christ et qui devient divin par la parole qui l'habite. Donc, autrement dit, la Trinité dit simplement une chose absolument essentielle, c'est que Dieu est Père. D'accord, parce qu'il est créateur, il nous aime, etc. Mais il est Père qui se décline dans deux hypostases, la parole et l'esprit. Les deux choses essentielles. Et si on a ça, si on sait que Dieu est à la fois parole et esprit, on a tout ce qu'il faut. Alors, je vous disais, c'était déjà compris comme ça dans l'ancienne Pentecôte. La Pentecôte, Dieu donne son esprit, par l'esprit on a la parole, etc. Cela dit, nous avons, nous, une nouvelle Pentecôte, c'est-à-dire qu'il y a une réinterprétation, autrement dit, de cette Pentecôte, et la nouvelle Pentecôte ne se passe pas exactement comme l'ancienne, et donc il y a des différences entre la Pentecôte juive et puis la Pentecôte chrétienne. Les différences, elles sont plusieurs. D'abord que les paroles qui sont données au Sinaï, c'est une parole de loi et de commandement. Donc, Dieu donne son esprit à Moïse, Moïse rempli de l'Esprit Saint, reçoit les tables de la loi, et donc ce sont des commandements. Dans notre Pentecôte chrétienne, je dirais c'est un peu le bazar. Si on regarde bien, c'est quand même moins bien ordonné, c'est-à-dire que la Pentecôte juive, c'était quand même très en ordre, il y a le peuple en bas, Moïse monte, il prend les tables, il redescend, il distribue les tables, tout ça est très clair, très hiérarchique. Là, dans cette Pentecôte chrétienne, j'avoue que c'est une sorte de joyeux bazar. Tout le monde parle dans tous les sens, il y a du monde dans tous les sens, il y a des gens de tous les pays, de toutes les races, et c'est un tel bazar que certains disent, à mon avis, ils ont bu du vin. Donc il y a une sorte de désordre qui me plaît beaucoup, parce qu'en fait, j'ai peur de l'ordre. L'ordre est parfois une façon de nier l'individu, et que si on est respectueux des individus, c'est difficile d'avoir un ordre absolu, parce qu'il y a des grands, des petits, des gros, des maigres, des blancs, des noirs, des courageux, des moins courageux, des actifs et des contemplatifs. Et donc, en fait, l'humanité est tellement diverse que le côté de l'armée qui marche au pas, où on voit qu'une tête et qu'un seul pas, ce n'est pas tout à fait l'image que personnellement je peux avoir de l'Église, et donc j'assume pleinement que dans notre protestantisme ce soit le bazar. C'est ce que disent les gens extérieurs, ils disent « Ah oui, c'est bien votre liberté protestante, mais entre nous c'est un bazar terrible, il y a des centaines d'églises protestantes, chacun crée sa propre église, et même au sein de notre église protestante dite unie, eh bien il y a des tas de complications et de diversité, mais finalement c'est très bien. » Donc vous disais-je, dans la Pentecôte chrétienne, il y a bien la parole qui vient, mais ce n'est plus une parole de loi. Il n'y a pas de commandement. C'est juste, dit-on, une parole qui dit les merveilles de Dieu. C'est ça, les gens étonnés disent, c'est formidable, on les entend tous dire les merveilles de Dieu dans notre langue maternelle. Et donc voilà la nouvelle parole qui est donnée aux chrétiens, un témoignage des merveilles de Dieu. Et j'aimerais que ma prédication soit ça. Ne soit pas de vous dire « faites ceci, faites ça, défense de faire ci, ne faites pas ça, obligé de ci, ça », mais soit simplement de dire « mais je vous donne des merveilles de Dieu, je témoigne de tout ce que Dieu peut faire pour moi et qu'il peut faire pour vous, de tout ce qu'il peut donner, de joie, d'espérance, de confiance, de résurrection même, et simplement, là, ce que nous donne l'Esprit, c'est d'entendre parler des merveilles de Dieu. Et ces merveilles, on les reçoit comme des cadeaux, sans aucune exigence. C'est-à-dire que les apôtres ne disent pas, attention, il y a les merveilles, mais ça vous impose des responsabilités terribles. Recevez les merveilles. Et l'Esprit est donné, juste, il donne des merveilles de Dieu. Donc pas de commandement, mais juste une bonne nouvelle. Juste, je dirais, une nourriture qui nous est donnée pour nous remettre en vie et nous donner un chemin merveilleux qui s'ouvre devant nous. Autre chose, autre petite différence qu'il y a dans cette nouvelle Pentecôte, c'est que dans Moïse, l'Esprit était donné qu'à Moïse en fait. Donc il y a un spécialiste qui lui reçoit l'Esprit, et puis ensuite, il écoute, la parole lui est donnée à lui seul, et puis il redescend et il distribue les paroles et pas l'Esprit. Alors que là, l'Esprit souffle sur tous. Et il y a là d'ailleurs, je le dis peut-être tous les ans où je prêche à la Pentecôte, un grand débat d'exégète. Si vous lisez le début du chapitre 2 des Actes des Apôtres, il est écrit « Alors qu'ils étaient là réunis, donc il vint en grand vent et des langues de feu vinrent se poser sur chacun. » La question c'est qui est ce « ils » ? Alors, quand on regarde les tableaux du temps de l'Église chrétienne triomphante et autoritaire sous le joug de l'évêque de Rome, on imagine les 12 apôtres, et puis qui reçoivent chacun 12 flammes. Mais un bon nombre d'exégètes disent, il n'est jamais dit qu'il n'y a que les 12. Et si on lit le verset précédent, on dit que les disciples étaient tous réunis dans la chambre haute, et il y avait même des femmes, vous vous rendez compte ? Et par conséquent, à qui le Saint-Esprit a été donné ? Eh bien, à tous ceux qui étaient réunis là. Parce que c'est quand même terrible. Hein. La Bible a beau nous dire que le Saint-Esprit est donné à tous ceux qui sont réunis là, c'est-à-dire à tous ceux qui sont venus pour louer Dieu, le Saint-Esprit est donné à chacun. L'Église chrétienne a continué d'essayer de revenir dans un système autoritaire pour dire le Saint-Esprit, non, il n'est pas donné à tous, il est donné aux apôtres. Et les apôtres savent ce qu'il faut, et eux, ils vont vous dire ce qu'il faut croire et faire. C'est-à-dire qu'on retombe dans une logique finalement judaïque, avec une autorité donnée à une sorte de collège sacré, sacerdotal, et puis le pauvre peuple, lui, n'a pas l'esprit. Comme si seule l'Église était inspirée par Dieu, seule l'Église avait le Saint-Esprit, seuls les pasteurs avaient l'autorité de connaître la vérité. Eh bien, moi, je vous dis que ce n'est pas ce que je lis dans le texte, et en fait, le Saint-Esprit est donné à tous. Enfin, en tout cas, c'est ce que je crois. Et donc, l'Esprit souffle pour tous, et du coup, il donne une parole. Alors, si chacun reçoit le Saint-Esprit, comment reçoit-il la parole ? Eh bien, l'Esprit est donné à tous, et il a quand même été donné d'abord à Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu repose sur lui, esprit de sagesse, de conseil, etc. Et donc, mais en même temps, nous avons effectivement une nouvelle parole, une nouvelle loi, une nouvelle parole de Dieu qui est l'Évangile du Christ, et certainement que l'Esprit soufflant sur le Fils de Dieu nous donne la prédication de l'Évangile. Mais à la Pentecôte, on va au-delà de ça, et on dit justement que l'Esprit, il est aussi donné à chacun. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons aussi une parole qui nous est dite à l'intérieur de nous-mêmes. Et ça, je crois que c'est vrai, parce que ce qui nous inspire, ça n'est pas simplement la lecture d'un texte vieux d'il y a 2000 ans, mais c'est aussi cette présence de Dieu qui vient parler dans nos cœurs et mettre dans nos cœurs une parole de sagesse, de consolation, d'intelligence, d'amour et de pardon. Ça, c'est ce que saint Augustin appelait d'un terme que j'aime beaucoup, il parlait de la vox cordis, la voix du cœur. Il disait, voilà, il y a effectivement aussi une parole intérieure qui nous est donnée par l'inspiration du Saint-Esprit. Et je pense qu'effectivement, la Pentecôte nous dit cela et que Dieu continue de parler à chacun dans la prière. Alors la prière, c'est une technique qu'il faut apprendre. Si vous ne savez pas prier, apprenez. On peut apprendre à prier, on peut être plus ou moins doué pour ça. Il y a des gens mystiques, d'autres qui le sont moins, mais on peut apprendre à prier, on peut apprendre à essayer d'entendre cette voix ténue et difficile à entendre qui est la voix du cœur et qui nous parle par le Saint-Esprit. Et puis, effectivement, on nous dit aussi que, donc là, il y a c'est toutes ces petites lumières, c'est également comme l'histoire du buisson ardent, sauf que pour Moïse, il y avait un seul buisson, pour tout le monde, là, c'est autant de petits buissons ardents. Et donc, chacun de vous, vous êtes un Moïse sur le mont Sinaï avec votre petit buisson ardent personnel. C'est ça, ces petites langues de feu, une parole qui vous est dite. Et je dirais même, cette parole objective, qui est l'Évangile, eh bien, elle vous est donnée à vous comme une parole personnelle. Et c'est pourquoi rien ne peut enlever la lecture personnelle de l'Écriture, parce que moi je la lis à ma manière et vous, vous la lisez à la vôtre. Et je ne peux pas vous dire que ma manière à moi de lire tel ou tel passage, ça doit être le vôtre. Donc chacun de nous, nous lisons cette parole et cette parole nous est donnée comme une parole personnelle et que chacun va interpréter à sa façon. Et je crois que c'est bien comme ça. Et puis de même, là, encore d'autres petites différences, mais là, le texte de la Nouvelle Pentecôte nous dit que c'est donné dans toutes les langues qui sont sur la terre, dans 70 langues, ou je ne sais pas combien. Et alors que la loi de Moïse, elle était donnée dans une langue sacrée qui était l'hébreu. Et là aussi, ça m'intéresse parce que ça veut dire que les réformateurs ont eu raison en disant « il n'y a pas de langue sacrée ». Comme s'il y avait une langue sacrée, qui soit l'hébreu pour les juifs, l'arabe pour les musulmans, ou le latin pour les catholiques médiévaux, mais en fait, il n'y a pas une langue sacrée. Et je dis, si je veux m'approcher de Dieu, il faut que j'apprenne l'hébreu, ou il faut que j'apprenne le latin, ou le grec, ou l'arabe. Mais en fait, Dieu vient me parler dans ma langue, c'est-à-dire dans chaque langue. Ça, je trouve ça assez étonnant, c'est-à-dire que ce n'est plus une religion qui est coupée de la culture, comme s'il y avait notre vie de tous les jours où on parle français, et tout à coup, à l'église, il faudrait parler latin. Alors vous me direz, bon, depuis les années 60, on ne parle plus latin, même dans les églises romaines, mais en fait, on retombe dans le même piège, parce qu'il y a dans nos églises une langue de bois. Et en fait, on est dans la vie de tous les jours et tout à coup, on vient dans les églises et on dit « Remplissez-vous d'allégresse par la miséricorde du Seigneur ». Qui comprend ça? Vous parlez comme ça dans la vie courante, à vos enfants, à vos collègues de bureau? Et donc finalement, est-ce que dans nos églises, on n'est pas en train de réinventer une sorte de langue sacrée qui ne veut plus rien dire? Tu dis « Je vis en Christ, je vis en Christ ». Ça veut dire quoi, concrètement? Et donc je pense qu'effectivement, là, la Pentecôte nous incite en disant « Vous devez dire les merveilles de Dieu, mais dans la langue des gens. » Voilà, pas dans une sorte de langue de bois sacrée à laquelle personne ne comprend rien. Et puis même, ça veut dire qu'il n'y a pas, en tant que fidèle, d'essayer de faire un effort pour accéder à la parole. Mais c'est la parole qui vient à nous. C'était le sens de notre prédication avec Florence dimanche dernier pour les confirmations. On disait « Venez comme vous êtes » et notre but c'est d'aller vers les gens et on va vers ces jeunes et on va vers vous, vers chacun en disant « Il y a une parole pour vous là où vous êtes, comme vous êtes » et on ne vous demande pas d'être différent de ce que vous êtes. La bonne nouvelle, elle s'adresse à vous dans votre langue, dans là où vous êtes, dans votre culture, dans vos croyances, dans tout ce que vous êtes vous-même. Et j'aime cette idée d'un Dieu qui s'approche, justement, qui s'approche. Et voilà, et en fait, ce Saint-Esprit, donc, qui nous est donné à chacun selon notre manière, finalement, qu'est-ce que c'est? Alors, pareil, de même que je vous ai dit que je ne ferai pas de leçon sur la Trinité, ça va être compliqué de vous faire une leçon sur le Saint-Esprit, juste pour vous dire les choses simples, comme ça, vous saurez. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ben oui, parce que Dieu n'a pas de corps, donc Dieu n'est qu'esprit, donc le Saint-Esprit de Dieu, c'est Dieu. Voilà, la chose est réglée, Dieu, c'est le Saint-Esprit, vous avez déjà appris une chose. Ce n'est pas différent de Dieu, il n'y a pas Dieu d'un côté, son esprit de l'autre. Dieu n'est qu'esprit, Dieu est esprit, Dieu est amour, point. Maintenant, on parle plutôt d'esprit quand on veut parler du mode de présence de Dieu. Si je dis « le Saint-Esprit m'accompagne », vous comprenez, si je dis « Dieu m'accompagne », j'imagine qu'il y a quelqu'un à côté de moi, donc... Si je dis le Saint-Esprit est présent au milieu de nous, on comprend qu'il s'agit d'une présence invisible, non corporelle, autrement dit. Donc on parle du Saint-Esprit justement peut-être quand on veut dépersonnaliser Dieu et voir Dieu non pas comme un individu ou comme une chose, mais plutôt comme une présence vivifiante. Parce que c'est ça le deuxième point, l'Esprit, bon, vous le savez, pardon, c'est le souffle. C'est le même mot en hébreu, en grec, tout ça, pneuma. Donc l'esprit, c'est le souffle, et c'est surtout le souffle vital, c'est-à-dire le souffle qui fait que l'on est en vie. Quand on respire, on vit, et quand on meurt, on donne son dernier souffle, l'esprit s'en va, le souffle s'en va. Et donc l'esprit de Dieu, c'est Dieu en tant qu'il est puissance créatrice. Dieu crée en donnant l'esprit, en donnant la vie. Et l'esprit de Dieu, c'est Dieu qui vient pour nous revitaliser, pour nous donner, pour nous relever, pour nous guérir, nous remettre debout, nous ressusciter, nous redonner goût à la vie, nous réconforter, etc. Et donc Dieu, effectivement, le Saint-Esprit, c'est cette puissance créatrice de Dieu qui est encore à l'œuvre. Et vous disais, il y a deux choses importantes, la parole et l'esprit. C'est-à-dire la parole, c'est le message, l'intelligence, le contenu. Donc vous lisez l'Évangile, il n'y a pas besoin d'avoir du Saint-Esprit pour lire que Jésus vous dit « pardonnez-vous les uns les autres et aimez vos ennemis ». Ça, c'est, vous pouvez être athée comme les pierres, vous pouvez lire l'Évangile et comprendre ce que Jésus dit quand il dit « aimez vos ennemis et pardonnez-vous réciproquement ». C'est tout, c'est quand même très simple ça. Et puis il y a le Saint-Esprit, cette présence vivifiante de Dieu qui est de l'ordre peut-être de l'expérience spirituelle. Et je dis idéalement, il faudrait les deux pour être un chrétien complet. Maintenant, chacun est plus ou moins bon dans un domaine ou dans l'autre. Il y a des chrétiens plus intellectuels et des chrétiens plus spirituels. Mais idéalement, il faudrait un petit peu les deux. Et en fait, cette dualité parole et esprit, on la trouve même dans les églises les plus évangéliques, par exemple, du protestantisme. Dans les extrémismes évangéliques, je dirais, on trouve les deux extrémismes. Il y a des évangéliques charismatiques qui disent la parole, en fait, j'exagère, on s'en fiche, l'important c'est l'expérience spirituelle, c'est la conversion personnelle, c'est de donner son cœur à Jésus, d'être transformé par l'esprit, de ressentir cette expérience qui fait de nous des nouvelles créatures, et c'est le baptême du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les charismatiques. Et puis il y a également chez ces extrémistes évangéliques, il y en a des fondamentalistes qui disent « mais ce que vous ressentez, je m'en fiche, l'important c'est la parole de Dieu, c'est d'obéir à la parole qui devient une sorte de loi en fait. » Et donc dans la parole, on lit des choses et on obéit à ce que Dieu dit dans la parole, parce que quand Paul parle, c'est Dieu qui parle, donc c'est la volonté de Dieu et on ne peut pas demander à chacun ce qu'il pense sur tel ou tel sujet, c'est la parole de Dieu qui donne sa réponse. Eh bien, je dirais que pour être un bon chrétien, il faut absolument maintenir les deux, même si ça peut sembler contradictoire, parce qu'il y en a un qui est objectif et l'autre qui est subjectif. Mais si on a les deux, chacun, je dirais, relativise l'autre. C'est-à-dire que celui qui est un peu dans l'ordre de l'expérience personnelle, eh bien, la parole vient mettre un peu d'ordre là-dedans et évite que l'expérience devienne une sorte de délire mystique. Ou alors évite que quelqu'un, tout à coup, mette comme un exemple universel ce qu'il ressent lui. Or, mon expérience n'est pas universelle. Donc la parole, elle permet de cadrer un peu. Et inversement, celui qui est trop dans la lettre risque de tomber dans une lettre morte, mortifère, et qui est le fondamentalisme. Au nom de la Bible, je condamne. Au nom de la Bible, je rejette. Au nom de la Bible, je réglemente. Eh bien, je dirais, la parole, c'est bien. Mais il est essentiel qu'il y ait aussi un esprit d'amour, de tendresse, d'accueil et de vie qui soit donné, même si c'est un petit peu, si ça contrarie un petit peu l'Écriture, eh bien cette parole est absolument essentielle. Et en fait, ce débat entre parole et esprit, entre parole et grâce, c'est tout le débat qui court d'ailleurs dans les disputes même internes à notre Église protestante unie. Et par exemple, qu'on avait eu à propos d'un sujet qui fâche tout le monde, enfin qui a fâché beaucoup de gens, sur la question de savoir est-ce qu'il faut bénir et accueillir les couples homosexuels dans l'Église. Alors ceux qui étaient du côté de la parole disaient non, parce que Paul a dit les homosexuels n'hériteront pas du royaume de Dieu, donc c'est un péché pour l'éternel, et si vous étiez fidèle à la parole de Dieu, au sola scriptura, vous diriez à ces gens, on va prier pour votre guérison. C'est ce que font certaines églises. Et puis ceux qui sont plutôt du côté de la grâce et de l'esprit, sola gratia, disent « écoutez, Paul a dit ça, moi j'en sais rien, c'était un contexte historique. Pour moi, l'essentiel, c'est la grâce. C'est l'esprit, c'est l'accueil, c'est la générosité. Et donc, je n'ai pas à dire un tel, il a l'esprit, l'autre, il n'a pas. Et comme s'il y avait des conditions suspensives pour pouvoir bénéficier du don de l'esprit et du don de la grâce dans les sacrements ou dans l'accueil dans l'Église ou dans le don de la bénédiction. En tout cas, c'est pour ça que j'aime cette idée dans la Pentecôte qu'il y a ces deux-là, l'esprit et la parole. Et cette présence de Dieu en Jésus-Christ, je vous ai dit, nous a donné l'Évangile. Et cette présence de Dieu dans l'esprit donne aux disciples la possibilité d'être à leur tour une parole dans le monde pour prêcher l'Évangile et pour être une parole d'amour, de paix ou un témoignage. Et donc, si nous continuons de fêter la Pentecôte aujourd'hui, c'est pour dire que nous croyons que le Saint-Esprit continue de souffler pour nous et que les langues de feu continuent de nous être données aujourd'hui. On ne célèbre pas un événement passé, mais on dit aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Donc aujourd'hui, l'Esprit vous est donné. Aujourd'hui, l'Esprit souffle encore sur vous et l'Évangile n'a pas été donné il y a 2000 ans comme si c'était fini et terminé. Sinon, nous redeviendrions des serviteurs d'une parole morte, avec un esprit qui ne souffle plus, ce que je ne crois pas. Et c'est ce que dit Paul aussi quand il dit « la lettre tue, mais l'esprit fait vivre ». Donc oui, ce qui nous est donné, c'est un esprit qui continue de souffler. Et donc justement, il faut trouver cet esprit qui permet d'interpréter cette parole qui sinon reste lettre morte et condamnatrice en quelque sorte. Et ça, c'est ce que dit aussi Calvin, qui a dit des tas de choses auxquelles je ne crois pas, mais de temps en temps, il a dit des choses astucieuses. Merci pour lui. En particulier, il parlait du témoignage intérieur du Saint-Esprit en disant la parole est parole de Dieu par le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Quand j'étais petit, je me disais, c'est un peu facile. Il dit, comme il ne peut pas le démontrer, il dit, c'est Dieu qui me le dit. Donc il me dit, prouvez-moi que c'est la parole de Dieu. Je dis, c'est le Saint-Esprit qui me l'a dit. Ok, je ne pourrais pas discuter. En fait, ce n'est pas ça que voulait dire Calvin. Il voulait dire, cette parole devient pour moi parole de Dieu si il y a en plus le Saint-Esprit qui vient se mélanger à lui pour faire en moi que ça devienne une parole de vie. C'est pourquoi d'ailleurs, souvent dans nos prières d'illumination avant les lectures, on dit, envoie-nous ton esprit pour que ces paroles humaines deviennent pour nous paroles de Dieu. C'est-à-dire que pour que ces paroles, tout à coup, se vivifient et redeviennent pour nous des paroles qui nous donnent la vie et qui nous permettent de trouver dedans une parole qui nous transforme. Et en fait, tout ça pourquoi ? Eh bien parce que les textes ne suffisent pas par eux-mêmes. Ça, on le voit dans l'expérience des disciples. Avant la Pentecôte, les disciples, ils avaient la connaissance de la prédication du Christ. Donc, ils avaient l'Évangile. Ils connaissaient tout ça. Or, ils étaient prostrés, immobiles, découragés, paralysés. Ça veut dire que cet Évangile, cette parole qu'ils avaient, mieux que nous, ne leur donnait pas la vie avant la Pentecôte. Alors, ça veut dire qu'il faut un certain temps pour que ces paroles qui nous sont données petit à petit s'enrobe de Saint-Esprit et commence à travailler pour se transformer en nous dans une parole divine qui nous donne la vie. La connaissance intellectuelle de l'Écriture ne suffit pas. Il faut qu'il y ait tout ce travail qui progressivement fasse en sorte que cette Écriture devienne quelque chose de neuf. De même qu'aujourd'hui, nous nous réunissons au nom du Christ. Et quand on est là, l'Esprit nous est donné. C'est ce que dit Jésus, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais cette expérience ne se fait pas forcément tout de suite. Et c'est bien effectivement dans l'Église, dans la communauté aujourd'hui, comme les disciples réunis, qu'on peut trouver cette présence spirituelle. Donc je crois que la communauté est très importante. Et la Pentecôte me plaît, la Pentecôte chrétienne, parce que à la fois il y a un côté très individualiste, chacun sa petite flamme, hein, c'est pas un buisson ardent pour tous, chacun sa flamme. Mais en même temps, ils sont ensemble. Donc ça, c'est toute la difficulté et l'ambiguïté même de la communauté protestante, où on dit que l'important c'est l'individu, et chacun a sa lecture, a son expérience, etc. Mais en même temps, une petite flamme tout seul, elle ne tient pas. Et donc on a besoin d'être à plusieurs pour avoir cet esprit qui permet justement d'éclairer et de faire quelque chose et de pouvoir parler aux autres. Et c'est ainsi que nous avons cette expérience extraordinaire qui nous est donnée pour aujourd'hui où nous le fêtons. Mais vous savez que normalement, je dirais, la Pentecôte, elle est fêtée tous les dimanches en fait. Et tous les dimanches, nous re-rassemblons l'Église et nous disons « la parole vous est donnée et l'Esprit vous est donné ». Avant chaque prédication, avant chaque lecture de la parole, il y a une prière d'illumination. On appelle l'Esprit et on lit la parole. Et quand on a les deux, eh bien, il y a une communauté qui se forme. Et c'est dans cette communauté qu'on peut partager une parole qui n'est plus une lettre morte, mais qui est une parole de vie. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous, frères et sœurs, que ce Saint-Esprit vous remplisse d'allégresse, de joie, de confiance, de force, de résurrection, de vie nouvelle, et que cet Esprit vous donne de trouver surtout dans cette parole extraordinaire une parole de Dieu, et que cette parole devienne pour vous, par le Saint-Esprit, une parole qui vous fasse vivre. Mais pour ça, j'ai pas de doute, ça fait 2000 ans que ça marche, donc ça peut marcher pour vous aussi. Amen.